Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Donald Trump est-il en train de s'immiscer dans la campagne électorale en Afrique du Sud? Nous verrons avec Olivier Four de la cellule InfoVérif de RFI comment son image et sa voix sont instrumentalisées au profit d'un parti politique radical. Rumeurs de cannibalisme en Haïti, des infox circulent là où le chaos et la violence n'ont pourtant pas besoin de surenchère. Chloé Lauvernier des Observateurs de France 24 a enquêté sur le sujet. Mais tout d'abord, notre invité, l'éminent journaliste ukrainien Yevhen Fetchenko, rédacteur en chef du site internet Stop Fake, fondé en mars 2014. 10 ans d'expérience dans la lutte contre la désinformation, la Crimée venait d'être annexée par la Russie et la guerre de l'information allait redoubler d'intensité. À l'occasion du forum Défense et Stratégie qui s'est tenu à l'Académie de Défense de l'École Militaire à Paris, nous avons pu rencontrer Yevhen Fetchenko, directeur de l'École de Journalisme à l'Université Nationale Académie Moïla de Kiev et rédacteur en chef de Stop Fake, organisation ukrainienne de premier plan pour la vérification des faits. En ce mois de mars 2024, Stop Fake célèbre ses 10 ans d'existence. 2014, une date qui ne doit donc rien au hasard.
Stop Fake a été créé il y a 10 ans en réponse à l'occupation de la Crimée par la Russie et à la guerre qui avait commencé dans le Donbass. Cela coïncide donc exactement avec le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui dure depuis 10 ans. Non seulement Stop Fake, mais aussi de nombreuses autres organisations ukrainiennes en charge de la lutte contre la désinformation et la communication stratégique ont été créées à ce moment-là, parce que tout le monde voyait la nécessité de ce type d'intervention dans la sphère publique. Car nous avions également constaté un énorme déficit d'information de la part du gouvernement ukrainien, qui était plutôt désorienté après la révolution de la dignité et en pleine refonte. Et la Russie utilisait ce manque d'information pour nous inonder de beaucoup de désinformation. Et à ce moment-là, nous avons compris que la guerre de l'information allait jouer un rôle important dans le conflit, bien plus que ce n'était le cas durant les périodes précédentes de notre histoire. Et nous avons commencé à travailler là-dessus.
Avez-vous observé une amélioration dans la résistance des gens à la désinformation dans votre pays?
Yes, I think those 10 years were not in vain because it hugely contributed to the.
Oui. Je pense que ces 10 dernières années n'ont pas été vaines, car elles ont énormément contribué à la résilience des Ukrainiens. Et quand l'invasion de 2022 a commencé, il était évident qu'il ne serait pas si facile de tromper les Ukrainiens en prétendant que l'Ukraine avait déjà disparu et que son gouvernement avait disparu et d'autres choses que la désinformation russe voulait faire croire au peuple ukrainien pour tuer sa volonté de riposte. Ça déjà, c'était très important. Et aussi, ce qui était important, c'est que lorsque les gens sont en détresse, mais la guerre est la plus grande détresse que les gens puissent avoir, ils cherchent vraiment à s'informer, plus encore qu'en temps ordinaire. Ils veulent sortir de l'incertitude et ils veulent obtenir des réponses à leurs questions. De ce point de vue, la vérification des faits répondait également à leurs besoins, parce qu'ils veulent savoir si cette information est vraie ou non, et il est arrivé que cela puisse sauver des vies parfois.
Tell us how the fact of monitoring disinformation is also a way to understand. Dites-nous comment le fait de surveiller la désinformation est également un moyen de comprendre les intentions russes sur le plan opérationnel.
Oui, nous faisons de la veille et nous pouvons collecter ainsi tous les récits poussés par la Russie, les mettre en perspective, comparer ce qu'ils disaient avant et ce qu'ils disent maintenant. On voit l'évolution de ces narratifs, leur augmentation en volume et en intensité. nous voyons aussi quand ils sont déconnectés de la réalité sur le terrain. Ainsi, à partir du moment où la désinformation joue un rôle très important dans la guerre cinétique sur le terrain conventionnel, nous pouvons faire des analyses et des prédictions sur les tactiques et la stratégie en fonction des messages qu'ils veulent propager et du type de récit qu'ils utilisent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.
Can you tell us a few concrete examples? Vous pouvez nous donner des exemples concrets?
For example, just before the full-scale invasion started, Russia...
Par exemple, avant le début de l'invasion à grande échelle, la Russie avait considérablement accru le nombre de mentions de l'Ukraine en tant qu'État fasciste. Poutine voulait, entre guillemets, dénazifier l'Ukraine. Et nous avons pu voir que ce message allait servir à la justification de cette guerre. Tout a été fait dans le but très précis d'augmenter le nombre de personnes qui soutiendraient ce que Poutine fait en Ukraine. Nous avons dû passer des années et des années à démystifier ces faux récits au quotidien et à renforcer la résilience des gens en dehors de l'Ukraine pour qu'ils ne se laissent pas tromper par ce narratif. Autre exemple, ils ont dit que l'Ukraine développait des armes nucléaires. Or, l'Ukraine est un pays qui s'est débarrassé de l'arme nucléaire de son propre chef des années auparavant. Ils ont dit « l'Ukraine veut recréer les armes nucléaires ». Ce n'est pas vrai, mais ce message continue d'être matraqué. Donc, quand je vous dis que nous pouvons changer la façon dont ce sujet est perçu dans le monde, cela ne veut pas dire que nous pouvons empêcher tout le monde de recourir à ce narratif. Poutine et le ministre Lavrov continuent notamment de répandre ce récit au quotidien, et il y a encore des gens qui y croient.
For example, both Putin and Minister Lavrov, they are still using the same narrative on a daily basis. And still, there are audiences who could believe that.
There's a big issue at stake nowadays. It's the support. Et il y a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est le soutien à l'aide militaire à l'Ukraine.
Actually, this is issue number one. For Russia, this is crucial to disrupt the Western support of Ukraine and prevent the military equipment from being transferred to Ukraine.
En fait, c'est le problème numéro un. C'est crucial pour la Russie d'arriver à perturber le soutien occidental à l'Ukraine et d'empêcher que le matériel militaire soit livré à l'Ukraine. Et pour ça, ils utilisent toutes sortes d'arguments. Ils disent que les armes peuvent être revendues aux organisations terroristes sur le marché noir et que le Hamas a utilisé ces armes lors de l'attaque contre Israël en octobre, etc. etc. L'idée est de priver l'Ukraine de ses soutiens, ça ne marche pas. Mais on entend quand même cette petite musique. Cela ne veut pas dire forcément que les gens affirment leur soutien à la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, mais parfois, les gens disent simplement « nous soutenons la paix ». Évidemment, c'est une noble cause, mais on entend alors que l'Ukraine doit se rendre pour arrêter cette guerre. C'est là que le narratif russe joue un rôle en décrivant l'Ukraine comme le principal obstacle à la paix, ce qui, encore une fois, n'est pas vrai. Parce qu'il existe une solution très simple à cela. Si la Russie retire ses troupes d'Ukraine, la guerre prend fin immédiatement.
Nous venons d'entendre Yevhen Fedchenko, le fondateur de Stop Fake, qui est une organisation qui se consacre exclusivement à démonter la désinformation russe, et sa cible prioritaire. Et nous recevons dans ce studio Xenia Jornoklei, qui est coordinatrice de la rédaction de RFI en langue ukrainienne. Bonjour Xenia.
Bonjour.
Dites-nous, est-ce qu'en Ukraine aujourd'hui, en temps de guerre, est-ce que c'est vraiment le problème principal en matière d'accès à l'information, cette désinformation russe massive?
C'est un problème très très important parce qu'on sait très bien que la plupart des Ukrainiens utilisent toujours la langue russe, même dans la vie quotidienne. Et je pense qu'on peut dire que tous les Ukrainiens comprennent la langue. Donc bien sûr, l'accès aux audiences est très important. Mais il y a d'autres problèmes. Côté information, déjà, il y a le problème de comment traiter certains sujets et quels sujets traiter aujourd'hui. Et ce problème se pose surtout pour les journalistes ukrainiens qui travaillent sur le territoire ukrainien. Par exemple, la question de la corruption, qui est très importante. Et il y a le problème de censure, autocensure parmi les journalistes, parce qu'il y en a certains qui considèrent qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment de parler de la corruption, parce qu'il y a l'image l'image de marque, l'image de l'Ukraine à l'étranger qui peut être abîmée. Donc, il y a des journalistes qui n'acceptent plus de travailler sur le sujet de corruption ou de le mettre de côté.
Mais ce n'est pas interdit. En fait, il y en a d'autres qui peuvent le faire.
Oui, ce n'est pas interdit. Il y a de grands médias qui fonctionnent aujourd'hui en Ukraine qui traitent spécialement de ces sujets-là parce qu'ils considèrent que, comme l'Ukraine est aujourd'hui candidat pour l'adhésion à l'Europe, c'est très important de traiter de ces sujets, de montrer, justement, démontrer que l'Ukraine se bat contre ce phénomène.
Et en dehors de la corruption, qui effectivement est un phénomène très connu, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui présentent des difficultés dans le traitement par la presse ukrainienne ?
Je pense que ce sont surtout les sujets des influences russes dans le monde. On n'en parle pas assez en Ukraine. Parce qu'on pense que le monde entier soutient l'Ukraine et très souvent on oublie qu'il y a d'autres pays qui se prononcent en faveur de la Russie. Il y a les pays d'Afrique, par exemple. Et ça, ce sont des sujets qui sont très mal traités ou traités d'une façon très superficielle. Et on passe toujours la guerre en première place.
Qu'en est-il, par exemple, aussi des informations sur le front et puis aussi, par exemple, des pertes humaines ?
Oui, alors ça, ce sont des informations qui sont très difficiles à vérifier, non seulement pour les journalistes ukrainiens, mais aussi pour les journalistes étrangers. Et tous les journalistes en Ukraine aujourd'hui, ils ont besoin d'une accréditation spéciale délivrable par le ministère de la Défense. Cette permission, cette accréditation leur permet d'exercer le métier en Ukraine. Mais il y a des restrictions. Par exemple, il y a certaines zones qui sont fermées aux journalistes et c'est interdit de s'y rendre. Et quand il y a des journalistes, non seulement ukrainiens, mais aussi étrangers qui vont jusqu'à la ligne de front, ils sont très souvent mis au milieu lieu de scandales, ils sont expulsés aussi parce qu'en fait, il y a des informations de l'ordre de secret militaire, il ne faut pas les divulguer et bien sûr, c'est encore plus difficile de vérifier les informations quand on ne peut pas y aller.
Merci beaucoup, Xenia Jornoclet. Je rappelle donc que vous êtes coordinatrice de la rédaction de RFI en langue ukrainienne, rédaction qui réside d'ailleurs en Roumanie. Cap sur l'Afrique du Sud à présent, où la prolifération des fausses informations suscite bien des inquiétudes à l'approche des élections nationales du 29 mai. Le pays est donc actuellement en campagne électorale. La population est très connectée, 45 millions d'internautes actifs. Alors évidemment, la bataille se joue aussi sur les réseaux sociaux. Un extrait de vidéo au format TikTok a fait couler beaucoup d'encre. On y voyait Donald Trump appelé à voter pour un nouveau parti d'opposition rejoint par l'ancien président Jacob Zuma. En réalité, Olivier Four, c'était un trucage.
Oui, et la vidéo n'a pas été postée n'importe où. Elle figure toujours à la date du 9 mars sur le compte X de Duduzile Zuma Sambudla, qui n'est autre que la fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. L'extrait ne dure qu'une vingtaine de secondes et voilà ce qu'on entend.
My name is President Donald Trump. I urge all South Africans to vote for Umkhonto We Sizwe. May 29th, the African National Congress of Cyril Ramaphosa has failed all South Africans with this new backed party by President Jacob Zuma.
Voilà donc Trump qui appelle à voter pour AMK, cette formation dissidente de l'ANC, qui est aujourd'hui un petit parti radical, rejoint donc par le sulfureux Jacob Zuma. Vous l'avez entendu, on croirait presque que c'est Donald Trump, tout y est, l'intonation, la syntaxe et même les erreurs de prononciation courantes sur les noms sud-africains. L'audio est de bonne qualité, mais les images qui vont avec, elles, sont un peu moins bonnes, même si les mouvements des lèvres sont plutôt bien reproduits.
Alors seulement vous nous dites qu'il s'agit en fait de ce qu'on appelle un deepfake.
Oui, l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle permettant de truquer un discours en faisant dire à quelqu'un des mots qu'il n'a jamais prononcés. C'est désormais assez classique. Le centre d'études ISS African Futures s'est penché sur la question. Dans une publication sortie cette semaine et intitulée « Désinformation et gouvernance à l'approche de l'élection sud-africaine », il assure que le faux discours de Donald Trump a été créé par le logiciel Parrot. Cet outil numérique permet à un utilisateur de sélectionner un avatar de célébrité. En fait, il y a un catalogue dans lequel on trouve les principaux dirigeants mondiaux. Il suffit d'en choisir un et puis de taper ensuite un script et ce script sera prononcé par une voix artificielle.
Alors, est-ce que les internautes sud-africains qui ont vu passer ça ont tendance à y croire ?
Alors, ceux qui connaissent la technologie des deepfakes ont tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait donc d'une manipulation. Les autres se sont posé des questions, c'est ce qu'on voit dans les commentaires. Mais surtout, ce qui est venu semer le trouble, c'est que ce faux discours a été publié sur le compte de la fille de Zuma, qui à 42 ans est une dirigeante importante au sein du parti et qui s'est révélée être aussi une super influenceuse, propagatrice de fausses informations. En 2022, Zuma Sambudla avait largement participé à l'amplification en Afrique du Sud de la campagne « I stand with Putin, I stand with Russia ». Traduction « Je reste aux côtés de Poutine, je reste aux côtés de la Russie » au moment de l'invasion de l'Ukraine.
Est-ce que la propagation de ces fausses nouvelles et la désinformation par l'IA, l'intelligence artificielle, peuvent perturber le scrutin du mois de mai ?
Ben c'est à craindre, laisse entendre l'ISS African Futures, qui souligne d'ailleurs que la fille de Jacob Zuma relaie déjà des menaces de violence si les élections ne se déroulaient pas comme prévu le 29 mai. Enfin, la messagerie WhatsApp, le principal mode de communication en Afrique du Sud, est par ailleurs devenue un important portail de diffusion d'infox, d'autant plus qu'elle échappe à la modération des contenus. C'est ce que rappelle ce centre de recherche.
Merci Olivier. Et puis à l'attention de nos auditeurs et internautes qui votent ce dimanche au Sénégal, on recommande la plus grande vigilance à l'égard des contenus qui circulent sur WhatsApp. Toujours chercher à vérifier avant de relayer. En Haïti, depuis fin février, la capitale Port-au-Prince est en proie à une vague de violence déclenchée par les gangs et au milieu du chaos, des rumeurs ont commencé à circuler prétendant que le cannibalisme, le fait de consommer de la chair humaine, serait une pratique courante dans l'île des Caraïbes. Rumeurs infondées mais insistantes, c'est pourquoi, Chloé Lauvernier, vous avez mené l'enquête.
Oui, ces rumeurs se basent essentiellement sur des articles et aussi sur des vidéos qui ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux, sauf que deux de ces vidéos n'ont rien à voir avec Haïti. La première montre deux personnes qui semblent cuire à la broche, mais elle a été tournée en Chine, dans un parc à thème. Et la deuxième vidéo, qui semble montrer des parties d'un corps dans une marmite, a été prise au Nigeria lors du tournage d'un film. Rien à voir avec Haïti, donc, et rien à voir avec des faits réels de cannibalisme.
Mais d'autres vidéos semblent toutefois bel et bien avoir été tournées en Haïti, Chloé.
Oui, une première vidéo a été tournée en février de cette année et elle montre un chef de gang de Mariani, un quartier de Carrefour, qui s'adonne à cette pratique. Une deuxième vidéo remonte au 1er novembre 2021, elle a été prise à Pétionville et d'après notre enquête, l'effet de cannibalisme qu'on y voit correspondrait à un acte de vengeance contre un voleur de moto. Enfin, une troisième vidéo a été diffusée autour du 15 mars 2019. Elle aurait été prise à La Saline et la personne dont la chair est mangée serait un partisan d'un ex-chef de gang.
En fait, ces atrocités gagnent en visibilité précisément parce qu'elles suscitent beaucoup d'émotions, mais ce sont des cas rarissimes au final.
Exactement, et ces rares cas concernent surtout des gangs qui veulent terroriser leurs rivaux et la population, tout en sachant qu'ils peuvent agir en toute impunité. Les rumeurs qui ont circulé récemment exagèrent donc largement les choses, et ces rumeurs sont aussi alimentées par des articles publiés dans des médias en ligne qui sous-entendent que le cannibalisme serait courant, mais sans apporter la moindre preuve.
Vous l'avez dit, ces rumeurs de cannibalisme ont été partagées massivement sur les réseaux sociaux. Alors qui les diffuse ?
Oui, certaines publications sur X comptabilisent des centaines de milliers de vues, voire même des millions de vues. Parmi les comptes qui relaient ces rumeurs, on trouve entre autres Elon Musk, le patron de X, et des comptes basés aux États-Unis, plutôt hostiles à Joe Biden et favorables à Donald Trump. Ces comptes relaient ces rumeurs de cannibalisme pour présenter les Haïtiens comme des sauvages, pour appuyer leur thèse selon laquelle l'immigration serait un danger pour les États-Unis. En fait, ces comptes visent notamment à décrédibiliser le programme de Joe Biden, le programme Humanitarian Parole, qui a facilité l'arrivée légale des Haïtiens sur le sol américain. Donc la diffusion de ces rumeurs s'inscrit dans le contexte de la campagne pour l'élection présidentielle américaine, qui est marquée entre autres par la diffusion de fausses informations sur l'immigration. Par ailleurs, ces rumeurs de cannibalisme ont également été partagées par des comptes qui affichent le drapeau de la République dominicaine et qui publient régulièrement des contenus racistes à l'égard des Haïtiens.
Chloé Lauvernier, journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24, merci à vous. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités, chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi qu'à Claude Battista, qui a réalisé cette émission. Dans un tout petit instant, c'est Accent du Monde avec Philippe Le Caplin.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Abonnez-vous à RFI sur WhatsApp pour recevoir le résumé de l'info sur votre téléphone.